VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Dion.
Bonjour à tous, 7h à Washington, 11h en temps universel. Un casque bleu marocain était toujours porté disparu aujourd'hui en Centrafrique après l'attaque lundi soir d'un convoi de la mission des Nations Unies, la MINUSCA, par un groupe armé qui a coûté la vie à 4 Cambodgiens, dont 3 sauvagement assassinés, a indiqué la force onusienne. Un groupe de civils centrafricains était en négociation avec les assaillants pour retrouver le soldat marocain disparu après l'attaque du convoi à 470 km à l'est de Bangui, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. En RDC, la formation d'un nouveau gouvernement mardi sans la plateforme du rassemblement dirigée par Félix Tshisekedi a redit les positions déjà tranchées. La coalition des Congolais pour la transition ne se reconnaît pas dans le gouvernement du Premier ministre Tshibala. Son président émérite Damien Kalouira réclame une transition.
N'ont pas besoin de voir M. Kabila pour soumettre à un spectacle des gouvernements qui ne durent pas. Vous voyez celui de Badibang qui a terminé sans avoir jamais tenu un seul conseil des ministres. Les Congolais n'ont pas besoin que M. Kabila les empiffre de corruption des masses en utilisant l'argent de l'État. Les Congolais ont besoin d'une nouvelle gouvernance, une gouvernance d'éthique morale, une gouvernance d'éthique politique, ce qui n'est pas le cas. Nous sommes en face d'un banditisme d'État. En réalité, le Congo n'a ni président de la République, ni parlement. Le Congo n'a aucune institution. Et ce qu'ils viennent se faire, c'est un coup d'État supplémentaire. Par conséquent, ils n'ont aucun pouvoir de prendre un quelconque décret ou d'engager la République démocratique du Congo.
Emery Damien Kalouira, président de la coalition des Congolais pour la transition. Le rapatriement en République démocratique du Congo de la dépouille de l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi, décédé en février à Bruxelles, a de nouveau été reporté à une date ultérieure. Le rapatriement du corps de Tshisekedi était prévu pour le 12 mai. Le gouverneur de Kinshasa a écrit mardi à l'UDPS pour l'informer que l'inhumation prévue n'était pas conforme à la loi.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Bukavu en RDC sur 97.4 FM.
Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a renvoyé mardi l'influent chef d'état-major de l'armée, Paul Malong. Selon un porte-parole du gouvernement, le général Paul Malong, longtemps considéré comme un nationaliste de l'ethnie Dinka du chef de l'État, a été remplacé par le général James Adjongo Mahoud, un militaire de carrière. En février, plusieurs hauts responsables militaires avaient démissionné, accusant M. Malong de mener une guerre à l'encontre des personnes n'appartenant pas à la tribu Dinka. Les dissensions politico-ethniques alimentées par la rivalité entre le président Salva Kiir et son ancien vice-président Riek Machar ont plongé le Soudan du Sud, indépendant depuis 2011, dans la guerre civile en décembre 2013. Les États-Unis ont suspendu une aide directe au Kenya en raison d'accusations répétées de corruption et de mauvaise gestion. Il s'agit d'un montant de 21 millions de dollars qui devait aller au ministère kenyan de la Santé. Jacques Aristide.
C'est l'ambassade américaine à Nairobi qui a annoncé cette suspension pour une période indéterminée. La somme a fait partie des 650 millions de dollars d'aide sanitaire annuelle au Kenya. Le ministre de la Santé a confirmé la décision qui survient après un scandale présumé de corruption portant sur une somme de 49 millions de dollars l'an dernier et une grève de médecins et d'infirmiers qui a duré 3 mois. Mais Cléopa Mailou a assuré que cela ne touchait pas les services de santé les plus essentiels. L'USAID, l'agence américaine d'aide au développement, ne paiera plus notamment pour des rencontres et ateliers et des voyages à l'étranger. La décision américaine intervient à peine 3 mois avant la présidentielle du 8 août au Kenya.
Au Cameroun, le cinéma local se cherche, et cela en raison de l'inexistence de salles. Mais une structure locale, Cinéma Numérique Ambulant, vient d'innover en primant 4 œuvres cinématographiques camerounaises plébiscitées lors de projections publiques. Reportage de notre correspondant sur place, Emmanuel Jules Untap.
Sous les ovations des maigres publics, le lauréat reçoit des mains du chef de la mission de l'Union européenne au Cameroun le prix du jour. Nous sommes dans la petite salle de projection de l'Institut français de Yaoundé. La fiction camerounaise État civil de Cyril Masso, ainsi récompensé, est pourtant un véritable plaidoyer pour l'enregistrement dès la naissance des enfants au Cameroun dans les registres d'état civil. C'est l'association Cinéma Numérique Ambulant Cameroun qui a fait connaître cette fiction dans les quartiers et villages du Cameroun, comme avec les trois autres productions camerounaises récompensées au cours de la même cérémonie. Stéphanie Ndogmo, présidente de Cinéma Numérique Ambulant.
Il y a des très bons films camerounais que le commun des Camerounais ne connaissent pas parce que ce sont des films qui ne sont pas accessibles du tout. Depuis 2012, nous avons diffusé jusqu'ici presque 300 films, près de 700 projections cinématographiques, plus de 250 000 spectateurs.
La diffusion des films camerounais au Cameroun est toute une problématique. Elle dépasse largement le cadre de l'inexistence des salles de cinéma. Olivier Franck Demba, directeur du Festival des courts-métrages Yaoundé, tout court, explique.
Aujourd'hui, il faut nécessairement avoir des visas d'exploitation. Et maintenant, les films que l'on choisit doivent respecter une thématique. En dehors de la thématique, il faut maintenant avoir des films qui ne sont pas contre le système en place. Et pour la liberté d'expression, pour la liberté de créativité, nous, les organisateurs des festivals, c'est extrêmement difficile. C'est un combat permanent tous les ans.
À cela, ça ajoutent les pesanteurs techniques et financiers qui plombent la diffusion des films camerounais. Blaise Pascal Tanguy est un jeune réalisateur camerounais qui réside en France. Son documentaire sur les métiers de la rue au Cameroun a été projeté dans 53 localités grâce à Cinéma Numérique Ambulant.
On n'a pas de technicien vraiment formé. Quand vous regardez à l'écran nos documentaires, quand vous regardez un documentaire produit par Planète, il y a un grand fossé au niveau de la qualité. Nos gens n'ont pas encore compris que le cinéma a une place de choix et que la culture permet vraiment de vendre l'image d'un pays.
Le marché de la diffusion des films camerounais est sans opérateur. La dernière salle de cinéma a fermé en 2009. Pour faire connaître leurs œuvres au grand public, les réalisateurs camerounais se tournent vers l'Institut français Laure Dominguel, animatrice culturelle à l'Institut français à Yaoundé.
Comme on n'a pas de distributeur camerounais, la difficulté c'est de trouver ces réalisateurs-là. La plupart viennent me proposer des productions. Si le thème est pertinent, si le film voilà, est une réalisation pertinente également, eh bien il a tout à fait sa place.
L'horizon s'annonce encore plus sombre dans la diffusion des films camerounais au Cameroun, le gouvernement n'ayant pas en vue de construire d'aussitôt des salles de cinéma. Yaoundé, Emmanuel Jeltap, VOA Afrique.
La justice marocaine a condamné à 2 ans de prison ferme et une amende de 2000 euros un fils de notable qui avait fait scandale au volant de sa Ferrari, ivre et ridiculisant des policiers à Rabat, a rapporté l'agence de presse MAP. L'homme âgé d'une vingtaine d'années avait lui-même filmé et diffusé à la mi-avril sur les réseaux sociaux une courte vidéo narrant sa soirée mouvementée et bien arrosée. Selon la presse locale, le jeune homme est issu d'une famille influente et est le neveu d'un richissime homme d'affaires de la ville de Lahyoun au Sahara occidental. Il serait également de la famille d'un ministre, toujours d'après la presse. La décision prise mardi par Washington d'armer les milices kurdes YPG en Syrie pour lutter contre le groupe État islamique est inacceptable, a déclaré aujourd'hui le vice-premier ministre turc Nurettin Canikli. La Turquie considère les unités de protection du peuple kurde, YPG, comme la branche syrienne des séparatistes kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, considéré comme une organisation terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Le président américain a autorisé le Pentagone à équiper les milices kurdes autant que nécessaire pour remporter une nette victoire sur le groupe État islamique à Raqqa, la capitale de facto des djihadistes, a déclaré mardi le porte-parole du Pentagone, Jeff Davis. Le président des États-Unis, Donald Trump, reçoit aujourd'hui le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, qui vient chercher le soutien de Washington à un projet de Moscou censé faire baisser les violences en Syrie. L'entretien dans le bureau ovale à 14h30 GMT sera la première rencontre du nouveau locataire de la Maison-Blanche avec un haut responsable russe, alors que les relations entre les deux puissances sont exécrables et que le climat politique à Washington est explosif. M. Lavrov sera d'abord reçu par son homologue américain Rex Tillerson au lendemain du limogeage choc du patron du FBI, James Comey, dont les services enquêtent sur une éventuelle collusion entre l'entourage de Donald Trump et la Russie durant la campagne présidentielle de 2016. Et pour terminer, le nouveau président sud-coréen Moon Jae-in a prêté serment aujourd'hui et s'est immédiatement dit disposé à se rendre en Corée du Nord dans un contexte de crispation avec ce pays reclus doté de l'arme nucléaire. Le nouveau chef de l'État, âgé de 64 ans, plutôt à gauche, est un ancien avocat spécialiste de la défense des droits de l'homme. Il se dit favorable à une forme de dialogue avec Pyongyang. Jean-Roger Billon, à bientôt.
L'info sur VOA Afrique.